Chapitre 2. Un enlèvement. Le lendemain de ce mémorable dîner de fiançailles, M. Bonbridge descendit de bonne heure, suivant sa coutume, pour se promener sous les grands arbres avant que l'ardent soleil eût entièrement fait évaporer la rosée, à cet instant bref et charmant qui suit le lever du soleil sous les tropiques. Il fut tout étonné de voir que Lord Buridan l'avait devancé. L'excentrique était en train de parlementer avec un boy qui, chaque matin, venait de Tampa à franc étrier pour apporter le courrier. « Eh bien, Milord, quoi de neuf ?» demanda M. Bonbridge après avoir pris des nouvelles de la santé de son hôte. « Je vais, à mon grand regret, répondit Lord Buridan, être obligé de vous quitter. »«
Pas aujourd'hui, j'espère. »«
Aujourd'hui même. J'apprends à l'instant que mon yacht, l'Ariel, est arrivé hier soir à Tampa, où il est ancré dans la rade. Il reprendra la mer sitôt que je serai à bord. »
« C'est fort ennuyeux, » murmura Bonbridge d'un air contrarié. « J'avais espéré que vous assisteriez au mariage de Régine avec votre ami Oscar. »«
C'était bien aussi mon intention, et d'ailleurs, j'y assisterai peut-être. » Puis, changeant brusquement de ton. « À propos, voulez-vous profiter de mon yacht pour faire une promenade en mer ? Je projetais tout à l'heure pour vous une charmante excursion. »«
Dont l'itinéraire ?»
consisterait à côtoyer le rivage jusqu'à Oyster Bay, ou même, si vous avez le temps, à contourner toute la presqu'île de Floride jusqu'à Sainte-Lucie, d'où vous regagneriez Tampa par le chemin de fer.
« Je ne dis pas non, » murmura Bonbridge un peu hésitant. « Je connais très mal cette partie de la côte. »«
La surveillance de votre établissement, » insista Lord Buridan, « ne réclame pas votre présence d'une façon tellement impérieuse que vous ne puissiez vous absenter 2 ou 3 jours. »«
Ce n'est pas cela. » L'organisation de mes fermes à escargot est telle que je pourrais m'en aller pendant 2 ou 3 mois sans qu'il y parût. Tous les directeurs, tous les surveillants que j'ai choisis sont des hommes de confiance.
En ce cas, c'est entendu, s'écria joyeusement l'excentrique. Je vais prévenir Oscar et Miss Régine. Ils seront, j'en suis sûr, enchantés de ce petit voyage. On fit rapidement les préparatifs nécessaires, et 2 heures plus tard, un buggy déposait les 4 touristes sur les quais du port de Tampa, d'où ils aperçurent la gracieuse silhouette de l'Ariel, ancrée un peu en dehors du port, et dont les cheminées lançaient déjà des torrents de fumée noire. Oscar et Miss Régine échangèrent un furtif serrement de main. À la vue du yacht, tous deux avaient éprouvé la même charmante émotion. Ils se rappelaient la longue croisière qu'ils avaient faite ensemble de Vancouver à l'île des Pendus, et ils ne pouvaient oublier que c'est au cours de cette traversée qu'ils s'étaient fait pour la première fois le mutuel aveu de leur amour. Ce fut avec un vrai plaisir qu'ils montèrent à bord de l'Ariel. Ils avaient à peine mis les pieds sur le pont du yacht, suivis de près par M. Bonbridge et Lord Buridan, qu'un gentleman d'un certain âge vint à leur rencontre. Il était accompagné d'un vieux peau rouge qui, à la vue d'Oscar, laissa éclater sa joie.
« Bonjour, mon brave Clum !» fit le jeune homme. « Bonjour, monsieur Agénor !»
Il ajouta non sans orgueil. « Je vous présente Miss Régine, ma fiancée !» Pendant que la jeune fille, toute rougissante, recevait les compliments du poète Agénor Marmousier et du peau rouge, Lord Buridan causait avec le capitaine. « Avons-nous suffisamment de charbon ?» lui demanda-t-il.
« Nos soutes sont pleines, Milord.
Et les approvisionnements ?»«
J'ai fait embarquer tout ce que nous pouvons trouver de mieux à Tampa comme vivres frais. Avec les provisions du bord, nous pourrions presque faire le tour du monde. »«
C'est bien, capitaine. Je ne vois pas trop alors ce qui peut nous empêcher de partir. »«
Les feux sont allumés. On va lever l'ancre. Dans un quart d'heure, nous aurons appareillé. »
Après avoir donné des ordres qui furent exécutés avec une rapidité et une précision toute militaire, Lord Buridan ne s'occupa plus que de ses invités. Une grande tente de coutil avait été dressée à l'arrière du yacht. Chacun prit place sur de légers et confortables sièges de bambou, et l'on se prépara à admirer les beaux paysages qui allaient se succéder sans interruption jusqu'à la fin de l'excursion. Déjà les ancres avaient été levées. Le mécanicien forçait ses feux et la ville de Tampa, avec ses maisons blanches sur un ciel d'un bleu cru, ses palmiers et son petit port somnolent, commençait à décroître à l'horizon. La côte, profondément découpée, se déployait dans toute sa majesté sauvage, avec ses récifs, ses golfes que bordaient de vieux palétuviers, dont les racines trempaient jusque dans la mer. De loin en loin, sur ce rivage désert, on apercevait une hutte couverte de feuilles de palmier ou l'embarcation d'un nègre pêcheur de perles.
« Pauvre noir !» murmura Miss Régine. « Je l'ai plaint !»
Elle montrait d'un geste effrayé 2 ou 3 requins qui s'ébattaient dans le sillage du yacht et le suivaient patiemment dans l'espoir qu'on leur jetterait quelque chose en pâture.
« Ces noirs n'ont pas aussi peur des requins que vous le croyez, » expliqua Lord Buridan. « Ils sont habitués à cette pêche depuis l'enfance et ils sont tous armés de coutelas, affilés,
à l'aide desquels ils savent parfaitement se défendre.
« Qu'est-ce que c'est que ces ruines ?» interrompit tout à coup Agénor. « Et comme ce paysage a l'air désolé !»
L'Ariel côtoyait en ce moment une région du plus sinistre aspect. Le rivage était parsemé d'un amoncellement de roches déchiquetées qui devait le rendre inabordable. Derrière cette bande de récifs s'élevait une côte marécageuse au centre de laquelle se dressait un rocher entouré de maisons en ruine.
« Voici la tour fiévreuse, » dit gravement Buridan à son ami Agénor, qui la tira un peu à l'écart. « C'est à cette place même qu'ont péri plusieurs des navires de la compagnie des paquebots éclairs.
« Je sais déjà par votre dernière lettre que vous avez brillamment et rapidement conduit cette enquête. Vous êtes toujours sûr que c'est bien la main rouge qui a causé ces naufrages ?»«
Absolument. Vous allez comprendre comment les choses se passaient.
Vous voyez là-bas, une dizaine de milles vers le sud, ce petit phare blanc. Il commande l'entrée du golfe d'Oster Bay qui, par les tempêtes, peut servir de refuge aux navires. Les gardiens de ce phare, deux noirs actuellement sous les verrous, étaient affiliés à la main rouge. » Lorsque l'un des paquebots de la compagnie de Fred Jorgel quittait la Nouvelle-Orléans, son départ était signalé aux naufrageurs. En cette saison-ci, les tempêtes sont fréquentes et terribles.
Qu'arrivait-il? Le capitaine du steamer, croyant trouver un refuge dans le golfe d'Oster Bay, gouvernait droit sur le feu qu'il apercevait et que lui signalait sa carte marine. Mais ce feu n'était plus à la même place. Les gardiens du phare avaient éteint le leur, et il en brillait un autre au sommet même de cette tour fiévreuse que nous apercevons ici. Immanquablement, le steamer allait se briser sur les récifs.
« Ce sont là des faits très graves, » répliqua Agénor, devenu pensif.
« Trois personnes seules peuvent avoir intérêt à faire sombrer les paquebots de Fred Jorgel.
« Je parie que vous avez la même idée que moi. »«
Je ne sais, mais la ruine de la compagnie des paquebots éclairs ne peut intéresser que ses adversaires financiers, c'est-à-dire Joy Dorgan, Cornelius et Fritz Kram.
C'est bien ce que je m'étais dit. Et savez-vous que c'était les mêmes bandits qui ont pillé la hacienda de San Bernardino et blessé presque mortellement Pierre Gilking qui a tiré les paquebots sur les brisants?
Voilà qui est extraordinaire.
L'un d'eux, continua Lord Buridan, n'était autre que ce slug qui joue si bien le rôle de capitaine de la revanche et qui, à l'île des pendus, réussit, je ne sais comment, à nous glisser entre les doigts.
L'avez-vous capturé?
Non, il nous a encore échappé. Mais il doit avoir eu le même sort que son complice, Edouard Edmond, dont on a retrouvé le squelette parfaitement nettoyé par les fourmis rouges et par les reptiles du marais.
Lord Buridan raconta alors, dans le plus grand détail, la façon dont Dorifa avait été sauvée, et lui apprit que la gitane ainsi que son mari Pierre Gilking, tous deux grièvement malades à la suite des privations et des blessures, étaient en ce moment soignés dans un pavillon isolé dépendant de l'habitation de M. Bonbridge. Agénor, à son tour, mit Lord Buridan au courant des projets de Fred Jorgel. Celui-ci se proposait d'acheter l'immense marécage qui entourait la tour fiévreuse, d'y faire creuser des canaux qui transformeraient en eau vive les mares croupissantes et d'assainir cette région maudite par des plantations d'eucalyptus, de peupliers et des cultures d'une variété de pommes de terre d'origine brésilienne, le Solarium commersoni, qui réussit admirablement dans les terrains humides. Auparavant, les moustiques devaient être détruits par le pétrolage et l'on devait, pour exterminer les reptiles, se servir de ces serpents chasseurs inoffensifs pour l'homme tels que la Mussurana, qui débarrassent en peu de temps toute une région des animaux venimeux qu'elle renferme. Ce projet, qui serait mis à exécution sitôt que Fred Jorgel serait affranchi de certains soucis immédiats, devait être complété par la construction d'un phare dont la tour fiévreuse fournirait les matériaux et par la destruction des récifs à l'aide de la dynamite. Pendant que Lord Buridan et Agénor conversaient ainsi, l'Ariel s'éloignait à toute vapeur de ces dangereux parages et la tour fiévreuse disparut bientôt dans l'éloignement. Le paysage avait changé du tout au tout. De hautes forêts de palmiers, d'acajou et de cèdres ondulaient à perte de vue. Les plages étaient couvertes d'un sable fin et brillant et de jolis villages de pêcheurs se reflétaient indolemment dans l'eau bleue. On déjeuna sur le pont. Miss Régine, dont l'air vif de la mer avait excité l'appétit, fit honneur à la cuisine du bord, qui, d'ailleurs, ne le cédait en rien à celle qu'on eût pu lui servir à la villa paternelle. Dans l'après-midi, on doubla le cap Sable, et l'on côtoya les petites îles dont est parsemé le canal de la Floride. Vers le soir, chacun se retira dans sa cabine. M. Bonbridge, en souhaitant le bonsoir à Lord Buridan, lui demanda quand on atteindrait Sainte-Lucie.
« Demain, sans nul doute, » répondit l'excentrique.
Tous deux se séparèrent en échangeant d'un cordial shake hand. Le lendemain matin, M. Bonbridge monta de bonne heure sur le pont. Quelle ne fut pas sa surprise en constatant que les côtes de la Floride avaient complètement disparu. De tous côtés, c'était le ciel et la mer immense et bleue. Le roi des escargots, car tel est le titre que les journaux commençaient à lui donner, demeura absolument stupéfait. Il se frottait les yeux pour s'assurer qu'il était bien éveillé, et il se demandait avec inquiétude si, une fois de plus, il n'était pas victime de quelque subtile machination des bandits de la Main Rouge. Il remarquait avec une certaine inquiétude que l'Ariel, pourvu des nouveaux moteurs inventés par Harry Dorgan, filait avec la rapidité d'un express ordinaire. D'ailleurs, personne sur le pont. De plus en plus inquiet, il se dirigea vers l'avant. Avisant un mousse, il lui demanda si l'on pouvait voir le capitaine. Le mousse répondit que le capitaine était toujours visible et conduisit M. Bonbridge jusqu'à la cabine de l'officier. Celui-ci fit comprendre à son interlocuteur, avec la plus exquise politesse d'ailleurs, qu'il ne pouvait lui fournir aucun renseignement sur la marche du navire, Milord ayant recommandé la plus grande discrétion à cet égard. « Mais, répliqua Bonbridge, suffoqué d'étonnement, je suis un ami de Lord Buridan. C'est peut-être alors, dit le capitaine, qu'il veut avoir le plaisir de vous renseigner lui-même. Et tenez d'ailleurs, le voilà. » Il montrait Lord Buridan, qui, vêtu d'un élégant complet de flanelle rayée et coiffé d'un vaste panama, se promenait nonchalamment à l'arrière. M. Bonbridge s'empressa d'aller le trouver. L'excentrique ne put s'empêcher de sourire en voyant la mine déconfite de son passager. « Ah, ça, lui dit-il, mon cher Bonbridge, vous avez ce matin un air d'enterrement. »« Dame, répliqua piteusement le roi des escargots, avouez qu'il y a de quoi. Je m'embarque hier pour une petite excursion et je me réveille en plein Atlantique. » Il est de fait, répondit Lord Buridan avec le plus grand sang-froid, que nous côtoyons en ce moment-ci la mer des Sargasses. J'en étais à me demander si je n'étais pas victime de quelque complot de la Main Rouge. Non, dit en riant Lord Buridan, le seul coupable, c'est moi. Je n'ai pu résister au plaisir de vous jouer un tour de ma façon. Ne m'avez-vous pas dit hier que vous pourriez vous absenter plusieurs mois sans que vos intérêts eussent à en souffrir? Oui, répartit l'ex-clown avec mécontentement. Encore faut-il que je prévienne mon monde, que je note des ordres. « Soyez tranquille, l'Ariel est pourvue d'appareils de télégraphie sans fil. Vous voyez que tout a été prévu. »« Mais enfin, Milord !» demanda M. Bonbridge, prêt à se fâcher. « Où me conduisez-vous ? » ?»« Au Canada, » répondit l'excentrique avec le plus grand sang-froid. Le roi des escargots était tellement abasourdi qu'il ne trouva pas un mot à répondre. « Ah ça » murmura-t-il enfin. « C'est une mauvaise plaisanterie. Rien n'est plus sérieux, je vous assure. Mais que vont dire ma fille et mon futur gendre ? Et puis d'abord, qu'est-ce que je vais faire au Canada ? Rassurez-vous, Primo, Miss Régine et Oscar sont du complot. C'est très mal de leur part. Et vous serez le premier à me remercier de vous avoir emmené. N'avez-vous pas manifesté le désir de me voir assister au mariage de Miss Régine ? Oui, mais... Non seulement j'assisterai à ce mariage, mais vous assisterez au mien. Apprenez, mon cher Bonbridge, que je vous invite à ma noce, qui aura lieu en même temps que celle d'Oscar et de votre fille. Je vois, reprit M. Bonbridge, qui avait pris rapidement son parti de la situation, qu'il n'y a vraiment pas moyen que je me fâche. Je vous dois assez de reconnaissance pour ne pas prendre mal cette facétie. Qui cache au fond une bonne intention. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'on m'a surnommé l'excentrique. Miss Régine et Oscar, qui avaient attendu la fin de cette explication pour paraître sur le pont, se montrèrent alors en riant aux éclats et félicitèrent Lord Buridan d'un enlèvement si bien conduit et si bien réussi. À ce moment, un marin apporta à l'excentrique un marconigramme que venaient d'enregistrer les appareils du bord. « Tiens, » dit le jeune lord après l'avoir parcouru, « voici du nouveau. Savez-vous qui l'on vient de retrouver muré dans les décombres de la tour fiévreuse ? Slug lui-même, le fameux Slug. C'est un vieux noir dont la manie est de chercher les trésors qui s'est aperçu qu'une muraille avait été fraîchement réparée. Il a pratiqué un trou et il a découvert le bandit encore vivant, mais dans un état lamentable. « Et qu'en a-t-on fait ?» demanda Bonbridge. On l'a transporté chez vous. Mais s'il en réchappe, je vais donner des ordres pour qu'il soit mené sous bonne escorte au Canada. C'est par lui, j'en suis sûr, que nous arriverons à découvrir les grands chefs de la Main Rouge. Le voudra-t-il ? Peu importe, j'emploierai les moyens nécessaires pour arriver à mon but. À tout à l'heure, je veux moi-même m'occuper de ce grenin à la capture duquel j'attache une grande importance. Et Lord Buridan rentra précipitamment dans la cabine où se trouvaient les appareils de télégraphie sans fil dont il connaissait à fond le maniement.